présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Et lui répond, je ne peux pas faire autrement pour le moment. Mais il y arrivera bien un temps où elle se fatiguera de tout ça. Mon pauvre ami, j'ai pensé à toutes les conséquences qui s'ouvrent, vrai, si elle était partie. C'est nous qui aurions été obligés de vivre là-bas. Le père lui dit, les filles, oh, ces filles. Moi, j'aurais aimé savoir un garçon, tiens, comme ce Julien, lui, je l'aime déjà. Elle le regarde bien et lui dit, ne l'aime pas trop tout de même. Souviens-toi de ton secrétaire. Il hausse ses épaules et lui dit, non, le garçon d'ascenseur. Elle lui dit, je le sais, mais ça fait mieux secrétaire tout de même. Florence est heureuse, elle a gagné. Bien sûr, elle sait que sa mère ne l'aime pas et qu'à la première occasion, elle fera tout pour les séparer. Elle devra faire attention. Il devra se tenir tranquille et être plus calme. Elle le lui dira. Elle se dit que son père, lui, non plus ne l'aime pas, mais lui ne fera rien parce que c'est un homme et qu'il est plus digne. Donc, elle revoit Alexis. Mais ne l'emmène pas chez ses parents. Puis, elle décide de se faire inscrire à l'université catholique pour étudier les langues mortes, grec et allemand ancien. Ça la distraira et lui permettra de ne pas rester chez ses parents la journée. Pendant qu'Alexis sera à son travail, elle ira à ses cours. Et puis, ça fait bien de s'occuper. Même de choses inutiles. D'ailleurs, qu'est-ce qui est utile dans la vie? Peu de choses. S'alimenter, dormir, faire l'amour, enfin ce qu'on appelle faire l'amour, se protéger des intempéries et prendre soin de son corps. Rien de plus. Le reste n'est pas vital et on peut s'en passer. Les animaux n'ont que ça comme souci. Malheureusement, l'être humain est plus qu'un animal. Oui, plus, même si à notre époque, l'on cherche à l'abaisser comme pour tout. C'est la mode de tout mettre au même niveau. Ça fait social Et ça ne coûte rien. Donc l'homme est une espèce à part. L'espèce humaine, il a un cerveau tellement développé qu'il ne peut se suffire que de ce qui est utile. Il a besoin de beaucoup d'autres choses pour s'occuper. Parce qu'autrement, il s'ennuierait. Peut-être parce que des coins de son cerveau ne seraient pas utilisés. C'est peut-être ça l'ennui. Donc, il doit s'inventer des tas de choses pour distraire son cerveau et que toutes les parties de son cerveau puissent s'occuper. Alors, il a inventé l'art, les jeux, le savoir-vivre. Les dissertations, etc., etc. Je ne parle pas de sadisme que certains animaux ont. La preuve, un chat qui joue avec la souris avant de la manger. L'innocence, la pureté, la gentillesse n'existent ni chez certaines espèces d'animaux, ni chez les hommes. L'animal n'est pas une bête gentille. Il y a peu de bons animaux, comme on dit, de bons indiens, qui en réalité étaient des gens très violents et cruels. Toutes les espèces vivantes ont un semblant de pensée, un côté méchant, sadique. Il n'y a que l'espèce humaine qui comprenne ce que c'est que de faire mal. Mais l'espèce humaine, elle le comprend, ce qu'elle fait, si c'est mal ou bien. Elle peut s'amender. Mais comment faire comprendre à un chat que c'est pas bien de jouer avant de la tuer avec une souris? Si on le lui interdit, il comprendra qu'il ne faut pas le faire à cause des coups, mais pas parce que c'est mal, parce que pour lui, son caractère veut qu'il agisse comme ça, en jouant d'une façon sadique avec sa victime, etc., etc. Aurore est ennuyée. Elle n'ose plus faire de soirée. Sa fille amènerait ce garçon. En plus, ça ne sert à rien. Un matin, qu'elle prend son petit déjeuner avec son mari, elle soupire et lui dit « Je ne sais plus que faire. Les soirées ne servent à rien. Ou plutôt, envenimer les choses. » Le mari lui dit « Et moi ?» Je ne peux rien faire à cause de ces francs blancs. Pour son thé, où elle reçoit ses amis, elle est gênée et à honte. Une fois qu'elles sont toutes assises, la femme à tête de cheval lui dit « Vos soirées a été très réussie. » Elle lui dit gênée, « Merci !» Elle lui dit, « Ce garçon, quel beau garçon !» La femme, en tailleur rouge, lui demande, « Lequel, ma chérie ? Il y en avait tellement de beaux jeunes gens !» La mère n'avait pas osé poser la question pour éviter que l'autre dise le nom. L'autre lui répond, « Celui que la fille de notre hôtesse fréquente, vous savez, le jeune et bel Alexis !» Elle lui dit, « Ah oui, je me souviens parfaitement. Oh oui, je le vois très bien. » Elle demande à pauvre Aurore, « C'est sans doute pour ça que vous avez organisé cette soirée, pour nous le présenter. pour faire des fiançailles officielles, n'est-ce pas ? Aurore est toute rouge. La femme à tête de cheval lui dit : Vous avez bien fait d'organiser cette soirée et de nous présenter. Vous devrez être heureuse d'avoir un si joli garçon comme gendre. Aurore est furieuse et lui dit : Ce n'est pas du tout ça, c'est simplement une connaissance de ma fille. Et le vrai motif de ma soirée, c'était pour nous tous. Ma tête de cheval lui dit : En tout cas, c'est un très beau et gentil garçon, et très très beau. L'autre lui dit : Beau, vraiment. Et d'ailleurs, enfin, bien. Non, nous sommes toutes des femmes, mais même maintenant et jusqu'à notre mort. Beau, oui, mais gentil. Vous allez peut-être vite. Vous avez vu avec quelle violence animale il s'est comporté avec ce pauvre Gilles. On aurait dit qu'il se comportait comme un homme du peuple. Et même de ces lieux horribles où l'on se tue pour un rien. J'ai cru qu'il allait les sortir un couteau et l'égorger. Il défendait votre fille comme un souteneur. Quel homme ! J'en avais des frissons dans le dos. J'aurais aimé être près de lui pour sentir sa sueur pendant qu'il se battait. Aurore est furieuse et se dit que tout le monde a dû parler de la scène à sa façon. Il lui dit : Ce n'était pas si terrible que ça. Il n'avait pas de couteau. L'autre lui dit : Ça, c'est vous qui le dites. Parce que. Enfin, et pourquoi en voulait-il à notre petit amour de Gilles ? Elle lui dit gênée : Je ne sais pas. L'autre lui dit : Gilles, si gentil, si délicat, si fragile. Il ne ferait de mal à une mouche. S'attaquer à un ange, c'est dégoûtant. J'étais obligé, c'est de le mener boire une coupe de champagne, ce petit oiseau. Voilà quelqu'un pour votre fille. La mère gênée lui dit : Peut-être, je ne sais plus. Ce n'est qu'une connaissance de ma fille, cette chose-là. C'est comme les cafards. Ça rentre chez les gens sans qu'ils le veulent. La femme à tête de cheval lui dit : Vous avez des cafards ? Mais non, c'est une image. Les deux dames regardent leur torse. Ce n'est pas facile de voir un cafard dans du café. C'est trop sombre. Alors, avec un sucre secoué, elles font semblant de tourner la cuillère dedans. On peut peut-être les sentir ou les entendre s'ils sont poussés contre la paroi de la torse. La pauvre Aurore est furieuse contre sa fille, en plus de cette histoire où elle s'est mise à dos toutes les mémères qui sont amoureuses de ce Gilles. Elle croit qu'elle a des cafards chez elle. Là, elle déteste vraiment sa fille. Et si Alexis, on ne sait jamais, était comme l'a décrite si gentiment la vieille folle, et lui donnerait volontiers un couteau pour qu'il tue sa fille. Comme ça, tout serait fini. Plus de fille, plus de prétendants, parce que lui irait en prison. Et pour les cafards ? Eh bien, changer d'appartement. Voilà. Mais non, elles sont là. Elles sont là assises sur des œufs. Alors, sachant qu'elles sont chez une personne qui a fiancé sa fille avec un assassin ou un souteneur et qui a des cafards dans l'appartement. Lorsque son mari rentre le soir et qu'il la trouve au salon Elle est folle de rage. Pleure. Assise, il va vers elle. Et lui demande, que se passe-t-il? Elle lui dit, c'est terrible, nous devons quitter cet appartement. Et pourquoi? Parce qu'il y a des cafards. Il lui dit, surpris, des cafards, tu en es sûr? Elle lui dit, ce sont mes amis qui en sont sûrs, et c'est l'essentiel. Ils vont le dire à tout Paris. Et en plus, elles pensent que notre fille est fiancée avec un jeune homme qui a failli égorger leur petit amour de Gide. Je suis effondré, je n'en peux plus. Il lui dit, calme-toi. Si ces vieilles pies nous font du tort, c'est moi qui les égorgerai. La femme lui dit, depuis que notre fille fréquente cet Alexis, c'est notre décadence, le début de notre fin. Elle nous tue, cette fille. Il lui dit, calme-toi et réfléchis un peu. Après, tu verras que c'est pas bien grave, tout ça. Elle lui dit, bien sûr. Qu'est-ce qui est grave? Et tu le sais très bien. Elle nous tue. Voilà tout. Il lui dit, calme-toi. Il la soulève, la prend par les bras. Viens, viens t'allonger un peu. Après, ça ira mieux. Ils sortent du salon. Il l'amène à sa chambre. La fait entrer. La fait asseoir sur le rebord du lit, lui enlève ses chaussures. Et l'allonge sur le lit. Détends-toi. Je vais dire à la bonne de t'apporter un peu d'eau sucrée. Et il sort de la chambre. Il est furieux contre sa fille. Il voit la bonne dans le couloir et lui dit, votre maîtresse est fatiguée. Elle est allongée dans sa chambre. Est-ce que vous pouvez lui apporter, s'il vous plaît, un pot d'eau sucrée?
Pauvre madame.
Elle s'éloigne. Il se dit, une fille est amoureuse, c'est la pire des choses. Le soir, lorsque sa fille rentre de ses cours, elle le retrouve au salon. Il lui dit, par ta faute, la famille est sans dessus dessous. Tu tues ta mère. Ses amis la dénigrent et disent que ton ami est un souteneur, égorgeur, et qu'il a failli tuer le pauvre amour de ces dames, le Gilles, et en plus qu'on a des cafards chez nous. Florence, gênée, lui dit,
je ne savais pas, père, mais je ne comprends pas.
Il lui dit, ton copain n'avait pas touché à cette Gilles. La coqueluche des mémères. Ça ne se touche pas, ce genre de personne. C'est sacré. Le mamour de mémères. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si la Framban apprend tout ça, nous sommes perdus. La ruine et tout.
Elle lui dit, mais ici, n'y est pour rien. Il est bien noté dans son entreprise.
Il lui dit, être bien noté dans son travail, ça ne sert à rien si on n'est pas dans sa vie privée. Faut arrêter avec ce jeune homme.
Elle lui dit, « Sûrement pas !»
Il lui dit, « Eh bien, nous sommes perdus. Tu iras vivre dans un monde en crise. Tu devrais comprendre. Et lui, s'il est si bien que ça, devrait voir le mal qu'il nous fait et comprendre qu'il doit tout arrêter pour notre bien. Si c'est un honnête homme, il doit se sacrifier pour nous. »
Elle lui dit, « Il doit sacrifier sa vie ?»« Eh bien, moi aussi. » Elle lui dit, « Il doit sacrifier sa vie ?» Eh bien, moi aussi.
Elle lui dit, « Dans la vie, on doit toujours faire un choix, et même celui que l'on ne veut pas. »
Elle lui dit, « Pour ton bien-être, tu sacrifierais ta fille ?»
Elle lui dit, « C'est très difficile pour moi, plus que tu ne le crois. Pense à ta mère, tu la sacrifies pour lui. »
Elle lui dit, « Je la sacrifie ?» Ce n'est pas parce que quelques vieilles folles sont tombées amoureuses d'un fou dangereux que je dois me sacrifier. Vous oubliez une chose, tous autant que vous êtes, c'est que j'étais agressé et violenté par cet ange de douceur et de beauté, tant aimé de ces vieilles, au compte en banque bien rempli, et qu'elles ne risquent rien. Elles aimeraient bien se faire violenter, mais qu'ils ne peuvent plus. Alors elle se rattrape en rêvant à ce monstre. Il lui crie, « Arrête de parler comme ça. Ce n'est pas digne d'une jeune fille de parler de cette façon. Tu es folle. Où as-tu appris ces horreurs ?» Elle lui dit, « Je ne suis plus un enfant. »
Il lui dit, « Eh bien, puisque tu n'es plus un enfant, tu devrais comprendre que l'on ne parle pas de ces choses à ses parents, même si on les sait. Par respect. » Par respect, tu comprends, que l'on doit à ses parents. Et puis moi, je n'y suis pour rien dans cette histoire. Je suis pris entre toi et ta mère. Et en plus, je reçois les coups et risque de perdre ma situation à cause de deux folles. Oui, deux folles. Parce que vous êtes deux folles, toi. Avec tes amourages, tes rêves, tes amourachés dans rien du tout, elle qui le voit comme un criminel de la pire espèce. Il n'y a que moi qui vois les choses claires dans cette famille, et qui vous fait vivre, et bien vivre, et qui vous passe tous vos caprices, et puis vos folies de femmes gâtées, vous gâtées. Je risque de perdre ma situation. Au lieu de vivre dans vos rêves, vos folies, vous feriez mieux de vivre la réalité et de m'aider au lieu de vous battre pour des riens. Et qu'est-ce que vous avez toutes? Ce qui vous faut, c'est parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et grâce à moi. Et que vous lancez dans des histoires pareilles. Mais si vous aviez à travailler pour vivre, à chercher à manger, à vous loger, etc., n'auriez pas le temps à faire des histoires avec des mamours de 4 sous. Vous êtes trop gâtés. Voilà.
Elle est gênée et ne sait que dire. Ça lui fait de la peine de faire du mal à ses parents qu'elle aime beaucoup. Mais pourquoi les êtres que l'on aime ne peut-il pas s'entraîner? Elle se dit, si père respecte les gens qui sont dans la misère, les choses doivent s'arranger. Oui, elles doivent s'arranger. Elle lui dit, père, je suis confuse de vous donner du souci. Je crois. Il croit que c'est fini avec Alexis, mais elle continue et lui dit, puisque vous respectez les gens qui luttent pour vivre et qui n'ont rien. Alexis est originaire de ce milieu que vous respectez tant. Alors vous devez comprendre qu'il veut s'en sortir. Il fait tout pour ça. Il est sérieux, travailleur, honnête. Lui aussi aime sa famille et veut l'aider. Lui n'a pas le temps, comme vous lui avez dit, de faire des caprices. Il doit lutter pour vivre. Et il a réussi. Il réussit bien, non? Il a eu un diplôme, un bon diplôme, et très bien noté pour son travail. Il n'a rien à lui reprocher, sauf d'être pauvre. Ou plutôt, de venir d'un milieu d'origine pauvre. Parce qu'il a un salaire, disons, assez bien. Et plus tard, il sera mieux payé, il pourra monter en grade. Que peut-on lui reprocher? Ce n'est pas parce que quelques vieilles excentriques qui ne font rien, juste dénigrer les autres et s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Oui, ces vieilles folles ne l'aiment pas parce qu'il n'est pas de leur milieu. Et alors? Tu laisserais ruiner la réputation d'un jeune homme, son avenir, à cause de ces vieilles folles qui ne veulent pas parce qu'il n'est pas né, qui ne le veulent pas parce qu'il n'est pas né, avec un compte en banque bien garni? Ce ne serait pas juste du tout. Elle se demande ce qu'il peut dire. Elle dit tout ce qu'elle devrait dire pour qu'il soit obligé de dire oui. Tu as raison. Il est furieux, il se dit que c'est de sa faute aussi. Quelle idée il a eue de dire tout ça? Maintenant, il est pris au piège. Il se dit, les femmes, quelle poisse! Le monde des affaires est plus simple, parce qu'il n'y a pas ou très peu de femmes. Et puis, si on y rencontre des femmes, une Judith, ça c'est quelque chose. Il lui dit, très bien, tu as bien parlé. Mais cela n'arrange pas nos affaires. Le mal est fait. Ces vieilles folles, comme tu dis, ont de l'influence, des maris actionnaires ou présidents d'un groupe. Elles ont des actions, elles aussi. Et même connaissent des ministres. Si nous nous mettons à dos ces vieilles, elles vont enlever leurs actions de chez nous. Puis, elles diront à toutes leurs amies. Et elles en ont, ces garces, parce qu'elles ne font rien. Donc, elles ont le temps de se faire des amis et de les voir. Donc, elles leur diront qu'elles ne veulent pas mettre de l'argent dans des entreprises dirigées par des voyous et que ça peut, peut-être, servir pour cacher un trafic quelconque, l'argent sale, etc. Ce serait notre ruine et notre déshonneur, puisque toutes les vieilles folles réunies, ça fait des sommes et des sommes, tu peux pas savoir. Elles ont formé tout un réseau de vieilles pies médisantes, et pour un oui ou un non, elles démolissent et ruinent la vie de famille entière. Et en ruinant un groupe, elles mettent à la rue ses employés et en font des SDF. On peut, nous aussi, le devenir en même temps que nos employés. Ce sont elles qui créent la misère noire en France. Et toi, tu continuerais, tu crois que tu continuerais à aimer un garçon? Ce garçon qui va créer, mettre dans la misère, la pire qui soit des misères, des milliers de personnes? Notre groupe, les entreprises qui travaillent en sous-traitance pour nous, etc., etc., des milliers de gens. Voilà où mène le caprice d'une jeune fille, au sacrifice de sa famille et de milliers de gens. Alors, père, vous exagérez tout de même. Il y a des tas de jeunes filles qui sont amoureuses et ça ne crée pas des cataclysmes.
Thank you.
présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.